Accent d'Europe, Abla Jounaïdi.
Bienvenue dans Accent. Au menu, Twitter a toujours le bec cloué en Turquie. Bruxelles décidé à traquer les avoirs d'origine criminelle. En Suède, un peuple d'éleveurs veut sauver son identité. Des étudiants en médecine de Bucarest investissent les campagnes. Enfin, en Pologne, les femmes aussi ont aidé à la chute du communisme.
You have a Twitter alert.
Nous partons en Turquie où les autorités ont bloqué jeudi dernier le réseau social Twitter. Et alors que le pays entre dans une ultime semaine de campagne pour les élections locales du 30 mars, Anne Andlauer, vous nous appelez d'Istanbul. Bonjour Anne.
Bonjour Abla, bonjour à tous.
Alors Anne, Twitter est-il toujours bloqué ce lundi en Turquie? Et si oui, pour quelle raison?
Oui, Twitter est toujours bloqué. Alors même si le Premier ministre a justifié sa fermeture en évoquant des contenus illégaux, notamment pornographiques, non effacés par Twitter en dépit de décisions de justice, la vraie raison de ce blocage à quelques jours d'élections cruciales pour le pouvoir ne fait guère de doute. Il s'agit, pour Recep Tayyip Erdogan, de tarir le flux d'enregistrements compromettants sur les réseaux sociaux, des enregistrements qui semblent l'impliquer dans une affaire de corruption. Ainsi, ce n'est pas un tribunal, mais l'autorité des télécommunications, une institution liée au gouvernement, qui a décrété et mis en œuvre le blocage de ce site, utilisé tout de même par plus de 10 millions de personnes dans le pays.
Anne, on savait aussi depuis longtemps qu'Erdogan ne portait pas Twitter ni Internet en général dans son cœur.
C'était particulièrement évident pendant les grandes manifestations antigouvernementales de l'été dernier. Les manifestants avaient pris l'habitude d'échanger des informations et des appels au rassemblement sur les réseaux sociaux, qualifiés à l'époque de fléau par le Premier ministre. Il y a 3 semaines, c'est Facebook et YouTube qu'il avait menacé de fermer, des menaces qu'il a d'ailleurs réitérées hier. Jeudi, quelques heures avant le blocage de Twitter, Erdogan avait promis d'éradiquer, je le cite, ce réseau social, quoi qu'en dise la communauté internationale.
Et les réactions, justement, n'ont pas tardé à se faire entendre.
En effet, la commissaire européenne en charge des nouvelles technologies, Nelly Kroes, a dénoncé un blocage sans fondement, inutile et lâche, fin de citation. Le département d'État américain, sur son blog officiel, parle d'autodafé du XXIe siècle. Même le président turc, Abdullah Gül, a regretté l'interdiction, expliquant dimanche qu'il n'est pas légalement possible de fermer Internet. Les partis d'opposition dénoncent en chœur une nouvelle censure et y voient un geste de panique du gouvernement à l'approche des élections. Ils encouragent les électeurs à redoubler de tweets pour tenir tête au gouvernement.
Oui, d'autant que le blocage de Twitter ne veut pas dire, Anne, que les Turcs ne tweetent plus.
Bien au contraire, ils sont hyperactifs sur le réseau depuis sa fermeture. Beaucoup de Turcs, habitués à la censure de leur Internet, ont contourné le blocage en quelques minutes en modifiant les réglages de leur ordinateur ou de leur téléphone. Le plus étonnant, c'est que plusieurs proches du Premier ministre, comme le vice-premier ministre Bülent Arınç, continuent de publier des messages sur leur compte officiel. Une interdiction peu efficace donc, mais qui surprend quand même parce qu'elle place la Turquie aux côtés de pays comme la Corée du Nord ou la Chine, qui censurent les réseaux sociaux, et parce qu'elle intervient dans une Turquie déjà sous tension à l'approche des élections locales du 30 mars.
Élections sur lesquelles nous reviendrons cette semaine dans Accent d'Europe. À bientôt donc, Anne Andlauer.
À bientôt, au revoir.
En Europe, à peine 1% des revenus issus des trafics mafieux comme la contrefaçon ou bien la drogue sont gelés ou confisqués. Une défaillance à laquelle le Parlement européen entend remédier. Le mois dernier, à Strasbourg, les députés ont voté une directive étendant les possibilités de gel des avoirs bancaires et des biens issus de trafics mafieux. Johanna Hochstein a suivi les débats pour Accent.
Un patrimonio immenso accumulato in 30 anni per un valore complessivo attorno a 1,3 miliardi di euro.
C'était il y a un peu moins d'un an, les médias italiens ne parlaient que de ça et pour cause. Il s'agissait de la plus grande saisie d'avoirs mafieux de l'histoire italienne. Des voitures, des bateaux, 43 entreprises et 98 propriétés confisquées à l'un des hommes de la Cosa Nostra, Vito Nicastri, pour un total d'1,3 milliard d'euros. Une prise exceptionnelle criminelle et rare. Les autorités nationales confisquent aujourd'hui moins de 1% des produits d'origine criminelle, faute de volonté politique, faute de coopération entre les pays européens. Et puis les groupes criminels réinvestissent aussi leurs profits illicites en dehors de leur pays d'origine. Difficile donc de retrouver la trace de ces biens mal acquis. Rui Tavares, eurodéputé spécialiste des questions de blanchiment d'argent, s'intéresse à la question au Portugal notamment.
Le crime organisé utilise les mêmes mécanismes qui sont utilisés pour l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive. C'est très difficile d'arriver aux propriétaires des actifs qui sont parfois parqués en dehors du pays. Pour donner des exemples, on sait qu'il y a beaucoup de blanchiment de capitaux qui viennent de l'Angola. On voit très bien qu'il y a des achats qui sont typiques du blanchiment d'argent, donc des achats de certains appartements en vrac très chers dans certaines parties du pays. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui les achète. C'est toujours une entreprise qui est de Dubaï ou du Panama, donc on n'arrive pas au bénéficiaire final.
L'Europe veut donc prendre le problème à bras le corps. Au Parlement européen, on planche sur le texte proposé par la Commission européenne en 2012, un texte qui prévoit de confisquer les avoirs qui ne sont pas directement liés à une infraction particulière, mais qui proviennent clairement d'activités criminelles. Cette confiscation pourrait concerner également des avoirs transférés à un tiers. L'ancienne ministre roumaine de la Justice, l'eurodéputée Monica Macovei, qui a défendu le texte au Parlement européen, aurait voulu aller plus loin. Elle proposait de s'inspirer des législations irlandaises et britanniques et de mettre en place ce que l'on appelle la confiscation administrative préventive. Au Royaume-Uni, cette confiscation préventive a permis de recouvrer quelque 11 millions de livres entre 2011 et 2012, explique Monica Macovei.
On ne cherche pas à mettre la personne en prison. Ce n'est pas l'objectif recherché. Ce qu'on veut, c'est confisquer le bien mal acquis. Sinon, on se retrouve avec des gens en prison pendant 5 ou 6 ans, mais l'argent, lui, est toujours en circulation. Et les criminels parviennent à monter de nouveaux réseaux liés au crime organisé.
Les eurodéputés écologistes comme Rui Tavares insistent, il faut mettre en place des garanties suffisantes.
Il y a deux choses qu'on veut en tant que citoyen, je crois. L'une, c'est récupérer un argent qui est de la société. On veut le récupérer et en même temps garder nos droits fondamentaux, la présomption d'innocence, le droit d'accès à un avocat, les droits de défense en tribunal, etc. Si la rapporteure aurait réussi à obtenir ce qu'elle voulait au début, c'était de faire dépendre tout ça d'une procédure de droit civil qui est beaucoup plus souple, c'est-à-dire les autorités doivent prouver beaucoup moins que dans une procédure de droit criminel.
Le texte prévoit aussi d'utiliser les biens confisqués à des fins publiques ou sociales, comme c'est déjà le cas en Italie par exemple. Monica Frassoni, femme politique italienne, présidente du Parti des Verts européens.
Après la mort des juges Falcone et Borsellino au début des années 90, il y a eu un grand mouvement populaire qui a porté à l'adoption d'une loi pour la réutilisation sociale des biens confisqués. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas battre les phénomènes du crime organisé seulement avec des instruments de police ou des instruments répressifs, mais il faut aussi changer la mentalité de la société et porter les gens à voir qu'il y a une alternative. Donc, faire des activités économiques qui ont du succès à partir des biens confisqués à la mafia, à l'andrangheta ou à la camorra est quelque chose qui a marché.
Cette réutilisation sociale de biens mal acquis a un coût. En moyenne, 200 000 euros pour la reconversion d'une ancienne propriété de la mafia en centre éducatif ou en pôle économique. Pour l'Italie, l'Europe finance ces opérations à hauteur de 9 millions d'euros par an.
Livre.
Nous nous rendons en Pologne pour notre chronique livre de la semaine. Maja Szymanowska, bonjour.
Bonjour.
La Pologne s'apprête à fêter cette année les 25 ans de la chute du régime communiste. De nombreuses publications sont consacrées à ces événements. L'une d'elles traite du rôle des femmes dans Solidarność, un rôle jusqu'ici laissé dans l'ombre.
Oui, il est vrai que jusqu'ici, peu de publications étaient consacrées à ce sujet. On peut citer une série d'entretiens publiés il y a 13 ans, intitulée « Rouge à lèvres sur le drapeau » et un livre d'une historienne américaine, Shani Penn. Un duo de jeunes chercheurs polonais, Jan Olaszek et Natalia Jarska, a décidé désormais de réparer ses oublis.
Cependant, Maya, les femmes étaient présentes dès le début du mouvement de l'opposition au régime communiste.
On peut même dire que c'est par une femme que tout a commencé. Anna Valentinowicz Légéry de Solidarność. À quelques mois de la retraite, elle fut licenciée des chantiers de Gdańsk pour son activité syndicale. On était en 1980. Son licenciement a tellement scandalisé ses collègues que tous les chantiers navals se sont mis en grève. Et c'est cette grève qui débouchera sur la fondation et la légalisation par le pouvoir du syndicat Solidarność. Premier syndicat libre à l'est du rideau de fer et qui sonne le glas de la mainmise de Moscou en Europe de l'Est. Une autre femme, Helena Krzywonos, conductrice de tram, a prêté main forte aux grévistes en arrêtant tout le réseau de transport en commun dans la ville de Lech Walesa.
Et Maya, dans un monde dominé par les hommes, le journal phare de Solidarność devient une sorte d'îlot pour les femmes du mouvement.
Oui, le grand journal clandestin Tegodnik Mazowsze était dirigé et produit presque exclusivement par des femmes. Les hommes étaient internés après l'introduction de l'état de guerre en 1981 et ce sont les femmes qui se sont chargées d'informer et de soutenir ceux qui restaient en liberté. Elles se cachaient ensemble, ont vécu ensemble presque durant 2 ans. Helena Uchevo et toute son équipe fonderont ensuite le premier quotidien indépendant après 1989, Gazeta Wyborcza.
Mais ce journal qui est une pépinière de futures femmes à succès devait être une exception dans les élites de l'opposition, non ?
C'est justement le grand questionnement du livre préparé par Natalia Jarska et Jan Olaszek. Les rôles principaux étaient réservés aux hommes. Or, l'opposition a tenu en Pologne grâce à l'effort des petites mains qui sont restées dans l'ombre. Les chercheurs décrivent le rôle crucial des agents de liaison entre les différentes cellules de l'opposition, qui étaient essentiellement des femmes. Ce sont les femmes qui s'occupaient aussi de l'édition et de la diffusion des articles et des livres interdits. L'un des livres censurés et diffusés sous le manteau était par exemple au 1984. De George Orwell.
Mais le rédacteur en chef du journal n'est pas une femme.
Et non, ici aussi, quand il a fallu élire le rédacteur en chef de Gazeta Wyborcza, le choix s'est porté plutôt sur un homme, Adam Michnik. Helena Uchevo a préféré rester dans l'ombre. Et c'est cet effacement imposé par les coutumes et la culture que les jeunes chercheurs s'attellent aussi à étudier. Le livre traite aussi, par comparaison, des femmes dans l'opposition dans d'autres pays de l'Europe de l'Est et va sortir en librairie dans quelques jours en Pologne.
Merci Maya Szymanowska.
Au revoir.
La ville suédoise d'Umea, à 600 km au nord de Stockholm, a été désignée capitale européenne de la culture cette année. À cette occasion, une exposition est consacrée aux Samis. Ce peuple d'éleveurs de rennes, qu'on appelle aussi les Lapons, vit entre le nord de la Scandinavie et une partie de la Russie. Mais leur mode de vie traditionnel est chaque jour plus menacé par la modernité. Apmutivar Kuoliok est un ancien éleveur de rennes. Aujourd'hui, il est écrivain, un écrivain sami de renom, mais aussi militant de la cause de son peuple, le seul peuple autochtone d'Europe. L'homme a accueilli dans sa maison nos deux reporters Corentin Valenceau et Victor Orberg.
À 84 ans, Apmutivar Kuoliok a le souffle court mais le regard lucide. L'écrivain de ma vie comme éleveur de rennes est comme le titre de son livre, humble. Sa sérénité ne laisse en rien supposer qu'il s'est très tôt rebellé contre la société moderne. À 15 ans, il choisit de quitter l'école pour travailler dans la forêt avec son père. C'était la nature, les rennes et la liberté qu'il souhaitait. L'écrivain Sami s'est en fait toujours méfié de l'État suédois, un État dont il juge l'attitude méprisante et paternaliste envers son peuple. D'ailleurs, sa famille, les Kuoliok, est marquée par une histoire de vol. Au début du XXe siècle, l'ethnologue suédois Erik von Rosen s'accapare un site des Kuoliok pour l'exposer à Stockholm. Un seit est une pierre ou un morceau de bois sacré, c'est dans la tradition chamanique sami le logis d'une divinité. Quand Apmutivar Kuoliok contribue au musée d'histoire de sa ville Jokkmokk, il engage un procès pour récupérer la pierre sacrée. Et près de 100 ans après le vol, il l'obtient. Mais sa lutte est loin d'être terminée. Apmutivar Kuoliok se bat désormais contre la construction d'une mine non loin de sa maison qui met en danger la transhumance des rennes. Cette mine signifierait pour sa famille la fin de tout élevage, la fin d'une tradition, la fin d'une culture. Tout n'est pas encore joué, mais l'État suédois prendra vraisemblablement à la fin du mois une décision en faveur de l'entreprise minière britannique. Beowulf Mining exploitera donc la terre où il habite. « J'ai eu ma part de victoire dans la vie », dit avec philosophie l'écrivain Sami.
En Roumanie, le système de santé est mal en point, avec seulement 2,1 médecins pour 1000 habitants. Le pays est à la traîne en matière de couverture médicale. Comme souvent, c'est à la campagne que ce manque est le plus flagrant. Des étudiants en médecine de Bucarest ont décidé d'agir avec une organisation locale. Ils ont lancé une caravane pour parcourir les villages et emmener les médecins des villes à la campagne. Reportage à nous en Transylvanie de Julia Burke.
Ce n'est pas le médecin habituel de Lenoutsa qui a pris sa tension aujourd'hui. C'est une jeune fille de 23 ans, aux cheveux longs, aux yeux verts et aux ongles peints. Elle est étudiante en médecine à Bucarest. Pourtant, nous ne sommes pas dans la capitale roumaine, ni dans un cabinet médical. Nous sommes dans la salle de sport de l'école du village de Nou. Lenoutsa, 73 ans, est installée sur un matelas posé sur une table d'écolier. Anxieuse, elle attend le verdict de l'apprenti médecin.
Je vous envoie chez le cardiologue pour qu'il vous ausculte, chez l'ophtalmologiste aussi. Et vous devez en plus faire une échographie, car vous m'avez dit que vous aviez mal au ventre.
Merci beaucoup.
Lenoutsa a de la chance aujourd'hui. Elle ne sera pas obligée de prendre le bus pour aller à l'hôpital de Sibiu à 20 km d'ici. Elle pourra faire gratuitement et en une journée tous les contrôles qu'elle n'a pas pu faire depuis des mois, voire des années. Et elle n'est pas la seule. Au total, ce sont 150 adultes et une centaine d'enfants qui ont profité de l'initiative des étudiants en médecine de Bucarest. Car ce village, comme beaucoup d'autres, se confronte à un manque de personnel médical et de spécialistes. En Roumanie, ceux que l'on appelle les médecins de famille sont rémunérés par le ministère de la Santé. Et c'est lui qui décide du nombre de postes de médecins par région. Dans la commune de Rochia, à laquelle appartient le village de Nou, les 6000 habitants sont répartis chez 3 médecins de famille. Valentin Aldea, le maire de Rochia, aimerait faire venir plus de médecins dans sa commune. Mais il se confronte au paradoxe du système médical roumain.
C'est vrai que seulement 3 médecins ne peuvent pas couvrir tous les besoins des habitants. Je suis certain que d'autres docteurs pourraient venir s'installer ici dès demain. Mais le problème, c'est qu'ils sont payés en fonction du nombre de patients qu'on leur attribue. Donc s'ils veulent avoir un bon salaire, ils n'ont pas intérêt à être plus nombreux, à se partager les patients.
La pédiatre Diana Goran en est à sa 7e caravane. Pour elle, le manque de médecins est loin d'être le seul problème dans les campagnes.
Il y a un vrai problème au niveau de l'éducation sanitaire. Par manque d'informations, les gens ne connaissent pas grand-chose, même aux maladies bénignes. Il y a aussi un vrai déficit de prévention. Donc, on a du mal à dépister les maladies qui pourraient être traitées si elles étaient découvertes à temps. Malheureusement, quand les patients arrivent dans les hôpitaux des grandes villes, c'est bien trop tard et souvent, on ne peut plus rien faire.
Faute de prévention, la tuberculose est l'exemple typique d'une maladie qui ravage la Roumanie et en particulier ses campagnes. Avec 50 nouveaux cas par jour, le pays concentre un quart des tuberculeux d'Europe. Daniela, en troisième année de médecine, profite alors de la caravane pour distribuer des dépliants sur la tuberculose. Énergique et impliquée dans cette campagne de prévention, elle n'exclut pas, à l'inverse de ses collègues, de venir exercer son métier à la campagne dans quelques années.
C'est difficile d'exercer à la campagne car on a très peu d'équipements médicaux, mais ces gens ont besoin de nous aussi. Quand j'aurai mon diplôme, j'y réfléchirai. Peut-être qu'à ce moment-là, les conditions de travail seront meilleures à la campagne et qu'il sera possible de venir pratiquer ici.
En Roumanie comme en France, les zones rurales sont les plus désertées par les médecins. Mais alors que Bucarest ne consacre que 4% de son PIB à la santé, soit le taux le plus faible d'Europe, la France vient chercher à l'Est les médecins qui lui manquent. Ces dernières années, au moins 10 000 médecins roumains ont quitté leur pays. Beaucoup d'entre eux exercent en France, dans ce même milieu rural qu'ils négligent en Roumanie.
Accent, c'est terminé, mais on se retrouve demain et d'ici là, sur le site rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur la page Facebook Accent d'Europe. Merci à Françoise Grelot qui réalisait cette émission et merci à vous de nous être fidèles. Tout de suite, le flash d'information sur RFI.